Bonjour à tous. C'est vrai que c'est peut-être pas tout le monde qui aime ça, que l'hiver, mais quand c'est l'hiver, le début de Noël, il y a toujours des chants qui sont extraordinaires, hein, qui nous communiquent un message là, qui est extrêmement beau. Là. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Jean, chapitre 17, le verset 15. Jean, chapitre 17, verset 15. On lit ce qui suit. C'est Jésus qui fait la prière d'intercession auprès de son Père. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors, dans cette prière d'intercession-là du Seigneur, ce qu'il demande à son Père, c'est de ne pas ôter du monde ceux qui ont cru en lui, mais de les préserver du malin. Et il rajoute aussi, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors, on comprend que dans cette prière-là, le Seigneur prie que Dieu laisse les croyants sur que la terre, puis il les a envoyés à travers que le monde. Alors, envoyés dans le monde, pour quelle raison? Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. On a été envoyé dans le monde, chacun de nous, chacun de mes croyants a été envoyé et laissé dans le monde pour une raison spécifique et claire. Cette raison-là, c'est qu'on a un message à livrer. De là, le titre que du message, le message. C'est pas trop compliqué, hein? Alors, chacun de nous, on a le même message à livrer aux gens qui nous entourent. Comme dans le temps des apôtres. Alors, Jésus, quand il prit cette prière-là, ça s'adressait aussi pour les apôtres, mais ça s'adresse aussi pour tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ à travers le début de l'Église primitive, à travers la prédication que les apôtres ont fait. Ceux qui ont cru ont fait grandir l'Église jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Toujours avec le même message. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble, quel message qu'on a à adresser au monde. Là vous allez peut-être dire, pas encore un autre message d'évangélisation. Oui et non, parce que, on a un message, mais il faut savoir quoi livrer à travers ce message-là. Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je me souviens, il y a plusieurs années, quand on venait visiter mon beau-père chez eux, là, où c'est que je demeure en ce moment, des fois, ça arrivait qu'il y avait des témoins de Jéhovah qui m'épassaient. Alors, à lire ce qu'il leur disait, c'était exactement ça. Il dit, « Moi, je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça le message qu'il voulait laisser à ceux qui passaient chez lui. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, le message parle du péché de l'homme puis de la grâce de Dieu, de la culpabilité de l'homme et du pardon que de Dieu. Le message peut être abordé sous trois angles que différents, puis c'est ça que j'aimerais vous proposer là, ce matin. Un, le message de l'Évangile concerne Dieu. Ce que Dieu exige de ses créatures, c'est qu'il nous a créés pour le servir et pour l'adorer. Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien aujourd'hui? Exactement pour les mêmes raisons. Nous sommes devenus chrétiens à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous, pour la raison de le servir et de l'adorer. C'est uniquement pour ça qu'on est sauvés. Adorer Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait, et en guise de reconnaissance, le servir. De toutes sortes de façons qu'on peut. Marlène, ce matin, elle nous en a démontré une. Avec les chants qu'elle nous amène, avec l'attention qu'elle prend pour choisir ses chants, pour toujours emmener dans une direction, c'est-à-dire que ceux qui vont entendre le message qui va suivre, ils soient concentrés sur ce qui va se dire. Alors là, encore là, c'est une façon de servir à mes seigneurs. Alors, quand l'apôtre Paul prêchait aux Juifs, il n'y avait pas besoin de le spécifier ça, à savoir qu'on a été, on a été créé pour servir et pour adorer Dieu. Les Juifs étaient au courant de ça. Il n'y avait pas besoin qu'on le rappelle, parce qu'à cause de leur connaissance de l'Ancien Testament, les Juifs savaient pour quelle raison Dieu les avait placés là. Mais quand Paul s'adressait à des païens ou des non-juifs, parce que païen, c'est ça que ça veut dire, des non-juifs, Paul était obligé de définir cette vérité-là, à savoir que Dieu, c'est le Créateur, puis que les hommes sont ses créatures. Quand les Athéniens y avaient demandé à Paul de s'expliquer concernant Jésus et la résurrection des morts à l'Aréopage, là, en passant, l'Aréopage, c'est un genre de cour extérieure, bâti sur le flanc d'une colline avec des sièges, tout ça, là. Alors, c'était un genre de tribunal qui était situé en plein air. Puis ce que Paul a dit aux Athéniens qui étaient là, on trouve ça dans Actes 17, verset 24, il nous a dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur que demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Ça, c'est le message que Paul communiquait à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, à ceux qui étaient, c'est-à-dire non-juifs. Dans le sens que l'être humain doit comprendre que les créatures qu'on est dépendent entièrement et complètement de Dieu. Puis, puisque Dieu est notre Créateur, il a tous les droits, il a les droits absolus sur nous. C'est important de réaliser ça, parce que lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, Dieu n'a aucun droit sur nous. Il n'a aucun droit de nous exiger quoi que ce soit pour la simple et bonne raison que je suis mon Dieu. Je suis mon maître. Alors, le Créateur n'a aucun droit sur moi. Ce qui montre à quel point l'homme sans Dieu est un être illogique, irrespectueux, en québécois, je dirais fendant. Il pense qu'il est correct pour faire ces choses lui-même, sans avoir besoin de Dieu. Une autre chose importante concernant le message, c'est que le message de l'Évangile porte sur le péché. Puis ceux qui étaient là samedi soir passé, c'est ça que j'ai voulu souligner lors de la de la méditation que j'ai amenée. Cet évangile-là nous apprend à quel point on est loin de satisfaire aux exigences de Dieu. On a juste à considérer, puis vous vous rappelez ce que je disais aux gens qui étaient ici, on a juste à considérer les 10 commandements de Dieu, puis qu'on le veuille ou non, il faut admettre qu'on les a échoués. On ne les a peut-être pas échoués les 10, mais inévitablement, on a échoué dans 1 des 10. Sinon dans 2 des 10 ou dans 3 des 10. Puis dans certains cas, ce qui est extrêmement grave, bien, c'est pas plus grave, mais je veux dire, il y en a qui, c'est 10 sur 10. Ils ont échoué partout, partout, partout. Puis si par orgueil, on pense qu'on a pu les réussir, comme je disais samedi dernier, Jacques 2:10 nous ramène à la réalité. Quiconque observe toute la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est pas trop encourageant, hein? T'en manques un, tu viens de couler ton examen. T'as eu 90 % t'as coulé ton examen. Les 4 premiers commandements concernent Dieu. Dans les 10 commandements, les 4 premiers touchent directement Dieu. Il est question de polythéisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant que ma face. Il est question aussi d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée qui représente Dieu. Le 3e, tu ne feras pas de serment. Puis le 4e, tu respecteras le sabbat. Les 6 derniers touchent au prochain. C'est-à-dire le respect des parents, le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage et la convoitise. Si on manque dans un de ces 6-là, on a blessé notre prochain. Ce n'est pas trop dur à me comprendre. Si tu as volé ton mes prochains, tu lui as fait du tort. Alors, une seule transgression nous empêche de satisfaire au commandement le plus élémentaire de la loi, c'est-à-dire aimer Dieu parfaitement et notre prochain comme nous-mêmes. Si on manque à un des commandements, c'est ça qu'on fait. Et parce qu'on a péché, inévitablement, ça va attirer sur nous la colère de Dieu. Puis il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes pour changer cette situation ou pour nous mettre en règle avec Dieu. De nous-mêmes, c'est, comme dans le film, mission impossible. Bref, l'Évangile nous apprend, en quelque sorte, à désespérer de nous-mêmes. Lorsqu'on lit l'Évangile, puis qu'on la prend en considération, puis qu'on y croit, ça va nous aider à « Hey, il n'y a rien que je peux faire. » On va désespérer de nous-mêmes, puis il faut aussi bien comprendre qu'avant d'être sauvé, il faut savoir qu'on est complètement perdu. Puis, c'est la position de tous les êtres humains et c'est une très mauvaise nouvelle. Et si vous êtes comme moi, il n'y a personne qui aime ça, les mauvaises nouvelles. Alors, quand on prend tout ça en sérieux, quand on prend tout ça, c'est-à-dire en considération, il y a un piège qu'il faut absolument éviter. Dans nos vies, si vous êtes comme moi, il peut y avoir des choses qui vous font honte ou qui vous déplaisent. Des choses que vous avez déjà faites dans le passé que vous ne voulez pas vraiment vous rappeler ou vous souvenir parce que ça vous met mal à l'aise. Puis chacun de nous, on a une conscience qui peut être troublée par les choses qu'on a faites dans le passé. Ou des occasions manquées pour atteindre le but qu'on s'était fixé, ou que la société nous a imposé, ou que notre famille nous a même imposé, dans le genre, il faut que tu fasses beaucoup d'argent, il faut que tu aies une bonne job, il faut qu'on te respecte. Souvent, dans les familles, c'est ça qu'on va mettre de l'avant. Travaille et étudie fort pour avoir une bonne job, pour avoir un bon salaire. Arrange-toi pour que les gens te respectent. Alors, ce qui risque d'être dangereux quand on fait de l'évangélisation ou dans le message qu'on va livrer aux autres, c'est de se contenter de réveiller le passé pour que les consciences soient troublées et présenter Christ comme celui qui peut sauver de tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, là. Toucher la conscience pour que les gens disent « Hey, j'ai manqué ici, là, je devrais. » Ce n'est pas vraiment ça qui compte parce que il y a juste Christ n'est pas venu pour nous donner une meilleure conscience. Christ n'est pas venu non plus pour nous sauver de la maladie. Christ n'est pas venu pour qu'on ne soit plus inquiet, pour qu'on n'ait plus de problèmes, pour qu'on n'ait plus de tracas. Mais malheureusement, c'est comme ça des fois que Christ est présenté. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras plus de troubles. Avez-vous déjà entendu ça? Ce message-là est faux. Il faut le dire. Ce message-là est faux. Si on présente l'Évangile de cette façon-là, il ne faut pas s'attendre que les gens vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Parce que le but premier du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'était de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient péché. C'est ça le message. Alors, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop quand on dit que c'est un message d'évangélisation, oui, mais il faut spécifier que le message doit être présenté correctement. Vous allez voir tantôt les conséquences d'un message qui n'est pas présenté correctement. Alors, la Bible décrit le péché comme une offense contre Dieu. Une offense qui coupe la relation entre lui et nous. Le péché n'existe pas par rapport à la société. Le péché existe par rapport à Dieu. Le péché, ce n'est pas social, c'est théologique. C'est Dieu qui a été offensé, c'est à lui qu'on a désobéi. Puis on ne pourra jamais saisir la véritable signification du péché si on ne reconnaît pas que le péché touche Dieu. C'est le premier qui est touché. C'est le premier qui est concerné. J'ai péché contre Dieu. Pas contre la société, pas contre mon père, pas contre ma mère, contre Dieu. C'est une transgression de la loi de Dieu qui a, encore une fois, un droit absolu sur ma vie. Ça ne se résume pas seulement à une désobéissance des lois morales ou de celles de la société. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il est de la plus haute importance d'annoncer le message aussi clairement que possible en ne déguisant pas le péché et en ne le masquant pas non plus. Dans certains milieux évangéliques, on n'ose plus prononcer ce mot-là, péché. Parce que, un, ça choque le monde, ça frustre le monde, et ça fait en sorte qu'ils veulent nous faire passer pour des arriérés. Le péché, c'est quelque chose qui n'existe plus. Je vous ai déjà conté une fois, quand j'étais à Bécomo, j'étais en train de parler avec une fille. Je pense que c'était une préposée à bénéficiaire. Puis là, je suis en train de jaser avec elle. Comme quoi que, ben le péché, c'est ça qui faisait que ça allait pas trop bien. Là, on parle d'une quarantaine d'années. Imaginez-vous 40 ans plus tard, comme si ça allait mieux, là. Mais je disais que c'est à cause de ça que ça va mal, à cause de mes péchés. Là, il y a un monsieur qui passe, qui écoute ce que je suis en train de dire à la fille. Puis là, il trouve ça drôle, puis il vient me voir, il dit, hey, voyons donc, on est en, je me souviens pas, On était peut-être en 1980 à ce temps-là. Hey, on est en 1980. Péché, ça n'existe plus, ça. Ah, j'ai dit, OK. J'ai dit, quand vous êtes parti de chez vous tantôt, là, avez-vous barré votre porte? Il me dit oui. Ben, je dis, pourquoi vous avez barré la porte? Parce que vous avez peur de vous faire voler. Le péché existe encore. Là, il est parti. Mais moi, je voulais pas avoir un argument avec lui. Il ne croit pas que le péché existe. Mais mets ça dans ta poche en arrière, puis pars avec ça, puis tu réfléchiras plus tard. Alors, le danger de ne plus parler de péché, c'est que on risque de garder du monde sur notre côté en ne parlant plus de péché. Sauf que la vérité, elle, va être entachée. Parle plus de péché, tu ne peux plus parler de la Bible. Tu ne peux plus parler du message de la Bible non plus. Alors, ceux qui vont demeurer proches, ou bien ceux qui vont même demeurer à l'Église, risquent de ne jamais être convaincus de péché, parce que tu n'en parles plus du péché. Comme quoi que le péché, ça n'existe plus, ou bien c'est pas grave. Alors, la mauvaise conscience de quelqu'un d'inconverti, c'est pas la même chose que la conviction de péché. Si quelqu'un est troublé à cause de ses faiblesses ou de ses mauvaises actions, il ne faut pas en déduire que là, il est sous la conviction de péché. Parce qu'avoir du remords ou se sentir misérable à cause de nos manquements, de nos imperfections, et prier le Seigneur Jésus pour avoir une conscience plus tranquille, ça ne nous amènera jamais à la véritable foi. Es-tu heureux? Es-tu satisfait? As-tu la conscience en paix? Souffres-tu? As-tu le sentiment d'avoir manqué ta vie? Bien, viens au Seigneur Jésus, il va combler tous tes besoins. Je vous disais tantôt que ça peut être dangereux de livrer le mauvais message au monde. Pas ça peut, c'est dangereux quand on les évangélise. Présenter Christ comme si c'était la marraine fée dans Cendrillon, celle qui transforme les guenilles en belles robes, les souris en chevaux, puis la citrouille en carrosse. Bien, présenter Christ de cette façon-là, c'est annoncer quelque chose qui est faux. Paul, après avoir rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, Jésus il s'est adressé à Ananias pour qu'il aille trouver Paul. Puis ce que Jésus a dit à Ananias concernant Paul, il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'a jamais dit à Ananias, maintenant que Paul s'est converti, là, ça va se mettre à bien aller. Là. Non, non. Il dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Romains 8, 17 nous dit, si nous sommes enfants, entre parenthèse, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Devenir chrétien, c'est pas de ne plus avoir de mes problèmes. C'est pas un évangile de prospérité comme certains milieux évangéliques américains prêchent. Acceptez Seigneur Jésus-Christ, vous allez devenir riche, vous n'aurez plus de problèmes. Vous allez pouvoir changer de char à chaque 2 ans. Vous allez être en santé. Tout va être beau. Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà le véritable sens de l'Évangile. Devenir chrétien, c'est apprendre à marcher à contre-courant. Vous vous reconnaissez quelle sorte de poissons suivent le courant? Les poissons morts. Les poissons vivants luttent contre le courant. Et les chrétiens se doivent de lutter contre le courant du monde qui veut les amener dans cette direction-là. Nous, on est tout le temps à contre-courant. Il y en a qui vont dire, ouais, puis des fois, ça vient d'ol à l'ombre. C'est ben, d'ol peut-être, oui. C'est, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas facile. Marcher à contre-courant, ça n'a jamais été facile et ça ne le sera jamais. Mais être chrétien, c'est ça. Évangéliser des pécheurs, ce n'est pas de profiter de leur sentiment de faiblesse ou de déception, mais plutôt de les encourager à vérifier leur façon d'être avec ce que Dieu demande vraiment. Es-tu en mesure de faire ce que Dieu demande vraiment? Les 10 commandements nous ont prouvé que non, tu n'es pas capable. Il va falloir que tu le réalises. Alors, pécher, c'est se rendre compte qu'on a offensé Dieu et qu'on s'est opposé à lui. Et c'est le message qu'on est appelé à livrer. Mais avant de livrer ce message-là, soyez patients, usez de sagesse, de tact, de délicatesse et arrangez-vous pour que ceux à qui vous allez parler, si vous êtes appelés à les rencontrer souvent, devenez des amis. Pour que vous gagniez de la crédibilité, parce que là, c'est une mauvaise nouvelle qu'on a à leur à annoncer. Mais cette mauvaise nouvelle-là, si elle est bien comprise, va faire en sorte que ça va virer dans une bonne nouvelle. Tu étais pécheur et maintenant, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Moi, j'aime avoir cette mauvaise nouvelle-là, puis ensuite avoir cette bonne nouvelle-là, qui est l'Évangile. David, dans le psaume de repentance, dans le psaume 51, au verset 6, il a dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence ou dans ton verdict, sans reproche dans ton jugement. » David a dit ça après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri qui a fait tuer. Alors là, il dit, « J'ai péché contre toi seul et tu vas être juste dans ton jugement. Je mérite d'être condamné. » David avait compris ça et il a écrit le psaume 51, le psaume de la repentance. Alors, le message qui doit être présenté aux êtres humains, c'est vraiment celui de la Bible. Romains 3, 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le « tous » ici doit être compris comme l'étendue totale d'un groupe. Ça veut dire tout le monde. Par conséquent, ce qu'on lit dans Romains 3, 10 est vrai. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est le message de l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle, suivie d'une bonne nouvelle, si tu crois. Alors, prêcher Christ, c'est le présenter aux pécheurs comme celui qui, par sa mort sur la croix, a réconcilié les hommes avec lui-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, samedi, c'est ça que j'avais souligné aussi. Dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié avec les hommes. Il n'a rien fait de lui. Mais l'homme a désespérément besoin d'être réconcilié avec Dieu pour la simple et bonne raison que l'homme a péché. L'homme a désobéi à ce que Dieu demande. Mais curieusement, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait les premiers pas. Lui qui n'a rien à faire, parce qu'il n'a créé aucun que malaise. Mais c'est quand même lui qui a fait les premiers pas. Il nous a envoyé son Fils mourir à ma place sur une croix. Parce que moi, j'ai péché, alors que lui n'a rien fait. Dieu m'a réconcilié avec lui-même en envoyant son Fils. Ça vous énerve pas, vous autres, ça? Énervé dans le sens de « c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour moi. » Autre chose qu'il faut bien saisir aussi, c'est que le mot « monde », il ne faut pas que ce soit interprété dans le sens où tous les êtres humains vont être sauvés ou réconciliés. La réconciliation ou le salut s'est réalisé uniquement pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, pas de réconciliation. Et j'ai osé dire samedi passé, si vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Mais c'est ça le message de l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle avant d'acquérir cette bonne nouvelle-là. T'es perdu, mais il y a un moyen pour être sauvé. Jean 3, 36, c'est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, avoir la foi en Christ, ça veut dire qu'on met notre confiance en lui et en lui seul. Il n'y a rien que je peux faire. Il faut réaliser qu'il n'y a rien que je peux faire pour gagner la faveur de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a rien de commun entre moi et la sainteté, entre moi et Dieu. Il n'y a absolument rien. Si Dieu voulait, il pourrait me dire, disparaît de ma vue. Mais il nous a tant aimés que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Alors, il y a uniquement le Seigneur Jésus-Christ qui peut me réconcilier avec Dieu, le Père. Alors, le message doit aller au-delà de présenter Christ comme étant celui qui nous aide dans les difficultés de la vie en donnant sa force puis son réconfort. Il peut le faire et il va le faire. Dans le sens que si je suis malade, je suis découragé, je ne fais pas bien, je peux demander l'aide de Dieu pour qu'il me fasse du bien. Le chant qu'on a chanté tantôt, « Il me gardera », hein? Il y en a qui ont souffert beaucoup de choses. Et avec un chant de même, ça les a comme... Ils ont mis leur confiance dans celui qui pouvait justement les garder, parce qu'ils n'ont rien trouvé dans le monde pour les garder. Alors, le Seigneur peut et il va nous aider. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut qu'il soit présenté, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas celui qui va te libérer de tes troubles. Le Seigneur est venu premièrement pour nous sauver de nos péchés. C'est la venue, c'est la raison principale et première pour laquelle il est venu. Dans plusieurs églises, vous avez sûrement déjà entendu la phrase qui dit « Si tout le monde qui sont passés ici serait resté, on manquerait de place. » Avez-vous déjà entendu ça? Et ça se raconte dans toutes les églises. Mais peut-être que la véritable question à se poser, ce serait plutôt, quel évangile est-ce qu'ils ont compris? Ou quel évangile est-ce qu'ils ont reçu? S'il y en a une gang qui sont venus puis qui sont partis, quelle sorte d'évangile qu'ils ont entendu? Quelle sorte d'évangile leur a été prêché? S'ils ont compris que Jésus-Christ, c'était ce magicien-là qui règle tout, puis qu'ils n'ont pas été exaucés, bien, inévitablement, ils vont être déçus. Puis, ils vont quitter. Parce que, soit que le message a été mal compris ou mal présenté. Il y a également ceux qui ne sont pas d'accord avec l'information qu'on le véhicule. Dans le sens que, bien, perdu, pécheur, besoin de repentance. Dans Romains 3, 20, on lit « Personne ne peut être justifié ou rendu juste devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, si tu n'es pas d'accord avec ça, bien, tu vas t'en aller aussi. Et finalement, il y a ceux qui quittent pour des raisons de conviction. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas clairs avec l'homme et salut. Ils quittent parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que lui dit. À ceux-là, la Bible a aussi un conseil à leur donner. Un conseil qui est clair. Parlez-vous, pardonnez-vous et corrigez ce qui doit être corrigé. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres. » Ça arrive-tu, ça, qu'il faut supporter les uns les autres? Des fois, ma femme, il faut qu'elle me supporte. Puis c'est pas parce qu'elle m'aime pas, là. Mais supportez-vous pareil. Supportez-vous les uns les autres. Et si il y en a un qui a sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive-tu, ça? Pardonnez-vous réciproquement ou mutuellement. Ça veut dire des deux côtés. Pardonnez-vous des deux côtés. Parlez-vous et réglez vos affaires. Mais il y en a qui vont endurer ça pendant des années. J'y parle plus. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas d'accord avec lui. Supportez-vous les uns des autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est pas de la magie, ça, là. C'est un passage de Colossiens 3,13. Alors, on a vu que le message de l'Évangile concernait Dieu en tout premier lieu, puis il porte également sur le péché. Parce qu'on ne peut pas garder sous le silence rien en ce qui concerne le péché. Troisièmement, le message de l'Évangile concerne Christ, l'auteur de notre salut. Hébreux 1,3 nous dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. La traduction par le mot « éclat » serait peut-être un petit peu plus conforme, dans le sens que le Fils est l'éclat de la gloire de Dieu. Le Fils est l'éclat de Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre en tant que représentant. Jésus, ce n'était pas un ambassadeur comme nos ambassadeurs qu'on envoie souvent, nous, dans d'autres pays pour représenter le Canada. Jésus n'est pas venu représenter Dieu sur la terre. Il est Dieu lui-même. Philippiens, un des 12 apôtres, il avait un jour demandé ça à Jésus. Il a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, puis ça va, on va en avoir assez. » Jésus, il a fait comme réponse, « Il y a si longtemps que je suis au milieu de vous, Philippe, puis tu ne m'as pas connu. » Christ est Dieu. Christ qui marche sur la terre, c'est Dieu qui marche sur la terre. Alors, on a ici la doctrine de l'incarnation, ce qu'on fête à Noël, Dieu qui prend un corps d'homme. Puis ce que j'avais dit aussi dimanche dernier, Christ est venu comme un homme afin de mourir comme un homme pour les hommes. C'est la raison pourquoi Jésus-Christ est venu. Puis que sa mort, c'était autre chose que son œuvre de rédemption pour un monde pécheur. Le Créateur qui est venu mourir pour ses créatures. Il y a dans 1 1 Corinthiens, Paul, il rajoute quelque chose ici. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Alors, le Christ vivant est le même que celui qui est mort. Romains 6, chapitre 9, verset 9, excusez. Romains chapitre 6, verset 9. On lit ce qui suit. « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ça les conséquences du sacrifice de Jésus à la croix. Il est mort pour mon péché, il est vivant pour que maintenant je puisse être vivant aussi. Alors, tout le message de l'Évangile nous invite à la foi et à la repentance. Mais cette repentance, elle n'a aucune limite au droit que Dieu a sur nous. Jésus l'a clairement spécifié à ceux qui voulaient devenir ses disciples dans Luc 9, 23. Ça fait plusieurs fois que je cite ce verset-là. J'espère que vous le connaissez par cœur. Si quelqu'un veut être... Si quelqu'un veut me suivre, Il y a trois choses à faire. Il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce qui doit être expliqué à ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le message doit être honnête et ne rien cacher. Oui, le pardon est gratuit. C'est vrai, ça. Mais ce pardon gratuit-là va coûter tout. Ça fait bizarre de dire ça, hein? C'est un salut gratuit, mais en retour, Dieu demande ta vie. Ça va tout te coûter. Pas pour être sauvé, mais pour obéir. On a vu tantôt, c'était quoi le but d'être chrétien? Le servir et l'adorer. Le servir et l'adorer, ça résume une vie entière et complète. Tous ceux qui veulent être disciples, tous ceux qui veulent suivre Jésus, tous ceux qui veulent être chrétiens, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien dans le sens que vous n'aurez aucun effort à faire pour mériter le salut. Mais un coup, vous l'aurez en main, là, ça vous coûte tout. Ça vous coûte toute votre vie entière. Si on ne prêche pas le salut de cette façon-là, peut-être que ceux qui vont entrer, lorsqu'ils vont être déçus, ils vont s'en aller. Parce qu'ils n'ont pas compris que ça va te coûter quelque chose. Puis, comprenez-moi bien, là, ça ne coûte rien pour être sauvé. Mais pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu renonces à toi-même. Que tu prennes tout ce qui va t'arriver comme étant quelque chose de permis de Dieu, puis que là, tu suis, avec les difficultés que ça va amener, que ça va impliquer. Mais Dieu nous aime tellement qu'il va être avec nous, à côté de nous, qu'il va nous soutenir, qu'il va marcher avec nous. Alors, si le message est bien compris, peut-être que ceux qui entrent vont rester. On approche de 2026. On a un seul message à livrer à ceux qui nous entourent. Il faut le livrer avec compassion, avec amour, avec délicatesse, mais ne rien cacher de la vérité. Et la vérité, vous la connaissez, on est tous des êtres humains pécheurs et perdus. C'est ça, la vérité. Faire à croire au monde que, si tu fais quelque chose de bon, Dieu... Il va prendre ça dans, il va peser ça dans la balance. Il n'y a aucunement question de balance, là. Tu ne peux pas rien faire, de toute façon. Alors, le message qu'on a à livrer, je vais vous le lire, on a lu ça dimanche passé, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Et je vais terminer avec ça. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, parce que dire aux hommes qui sont perdus et pécheurs, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. C'est pour ça que je vous dis, soyez prêts, priez, devenez des amis avant de commencer à avoir un langage de main, à moins que vous rencontriez cette personne-là uniquement une fois dans votre vie. Vous pouvez peut-être laisser un tract qui va dire la même chose. Alors, Dieu nous a confié l'Évangile pour qu'on puisse parler, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour que mobile, le désir de vouloir faire de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. C'est une autre chose qu'il faut se garder. Montrer qu'on est comme supérieur aux autres. Parce que nous, on détient la vérité. On sait ce qui est vrai. C'est peut-être tout vrai, cela, là. Mais il y a une façon de le manifester. Jésus-Christ, qui était la sagesse pure et incarnée, le voyez-vous à des endroits dans la Bible où ce qui... qui a envie de se péter bretelles? Jamais, jamais. Lui qui est Dieu, et regardez ce qu'on lit dans Philippiens. Je vais vous le lire parce que je veux le lire comme il faut. Là. Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, lui le créateur des hommes. Il a pris une position que bien souvent nous autres, ça ne nous tente pas de prendre. Mais lui, il l'a pris. Lui, le Dieu, trois fois saint. Puis nous autres, on ne la prendra pas, cette place-là. Alors, rappelons-nous justement les avertissements, les conseils, tout ce que la parole de Dieu nous dit, parce que la véritable foi a toujours un seul contenu. Le contenu, c'est ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Alors, qu'on puisse faire de ce livre-là en 2026, si ce n'est pas le cas, j'espère que oui. Ça, c'est le livre de la vérité. C'est le livre qu'on est appelé à lire et à méditer et à présenter aux gens avec un amour. Bien, regardez ce qui est écrit, le dernier verset que je ne vous ai pas lu, que je vais vous lire. 1 Thessaloniciens 2, verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ceux à qui on prêche, là, ça devrait être des gens qu'on a à cœur, qu'on aime, puis qu'on veut les voir sortir des ténèbres. Prions. Oui, que notre Dieu est Père, on est tellement bouleversés encore de... réaliser la profondeur du message que tu nous as confié. Et Seigneur, ce qui nous bouleverse encore, c'est que dans ta parole, on lit que tu nous as jugés dignes de nous confier l'Évangile. Alors, on veut que dans ta grande bonté, tu nous remplisses de sagesse, de discernement, que tu nous donnes cet amour pour les âmes perdues, afin qu'on sache quoi leur dire et comment leur dire aussi. Et c'est pour ta plus grande gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le demandons. Amen.